Voyager à travers le temps et aborder l'histoire de la Côte d'Ivoire, les rapports entre les peuples, les espaces culturels et traditionnels, les relations du pays avec les peuples d'ici et d'ailleurs. Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, contes, légendes, des origines à nos jours. Présentation, Jules Kofi Ebois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde. Histoire d'ici.
Professeur Alou Kwame René, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes professeur à l'université Félix Houphouët Boigny de Cocody et vous êtes spécialiste de l'histoire des civilisations Aka. Nous sommes ensemble ce jour chez vous, c'est pour apprendre davantage et notre choix ensemble s'est porté sur une population qui force l'admiration à cause de sa spécificité. La spécificité de ce peuple, son exode, le peuple Gwa. Situé pour les auditeurs, s'il vous plaît, ce peuple Gwa. Et faites-nous l'histoire de ces braves guerriers, je l'ai lu quelque part.
Oui, c'est exact. Le peuple Gwa est surtout connu sous le nom Bato, qui sont dans l'actuel département d'Alepé. Et bien que les Gwa ne sont pas, je dirais, peut-être très nombreux démographiquement, ils ont des villages situés, je dirais, dans la partie ancienne. Bon, la zone s'appelle Ogulapo aujourd'hui. Il y a certains qui sont dans les villages de Dabré, Domolon, Akouré. Puis maintenant, vous avez les villages qui sont le long du Komoué, voilà, tels que Monga, il y a beaucoup d'autres villages, Ngrakon, etc., qui sont du côté du Komoué. Voilà, donc c'est cette population-là dont nous allons parler de l'histoire.
Et il y a ce village qui est du côté de Benjaville, Wake.
Bon, en fait, il y avait une voie d'accès au pays Mbato par la zone de Benjerville, mais on est obligé d'emprunter la lagune, de passer par la lagune. C'est un bras de la lagune ébriée qu'on appelle la lagune Potou. Voilà, on est obligé de passer par là. Mais bon, je pense que pour y aller aujourd'hui par la voie au niveau d'Alepé, c'est beaucoup plus simple pour ceux qui veulent éviter le passage sur la lagune.
Boaké Benjerville, c'est un village Mbato, c'est un village Gwa.
Bon, en fait, ce village doit être peut-être un village très récent parce que les villages anciens, c'est Domolon. Domolon, c'est le nom réel. Domolon qui est devenu Domolon. Et puis, vous avez Dabré, Laboum, et puis vous avez Akouré. Et donc, c'est des populations qui se sont établies assez tardivement. Elles se sont assez établies tardivement parce que elles arrivent dans une zone qui était densément peuplée. Mais, à mon avis, il y a eu comme une sorte de retour, surtout de ceux qui étaient de même extraction que les Aladjans. Parce que les Aladjans, dans leur migration, sont passés dans cette zone-là qu'on appelle Agrouvri. Ils appelaient cela Agrouvri. Les ancêtres ont fait escale là. Mais ceux qui sont venus former ce qui va devenir le groupe ethnique ou le peuple Mbato sont partis d'un village Abidji. Un village Abidji. Ce village, c'est Gomon. Et Gomon a été créé par deux clans, deux familles, si vous voulez. Il y a les Yorokbo qui sont justement de même extraction que les Aladjans et qui sont de même extraction que les Adjoukrou d'Akradio. D'ailleurs, c'est cette zone Adjoukrou d'Akradio qui sont venus s'installer à Gomon. Maintenant, il y a un autre clan, le clan Akoumiambra, qui lui est d'extraction Agni, qui est d'origine Agni, notamment Agni Sawa, les Agni Sawa, qui curieusement aussi, les zones, ils ont une localité Mbato là-bas, mais ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose, qui se sont installés à Gomon.
Nous allons arrêter là parce qu'on aura à présenter une émission sur Sikensi et Gomon, c'est vraiment le village phare. Nous sommes dans le Gwa, nous sommes avec les Gwa et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Essentiellement, nous allons parler des Gwa. Vous avez expliquer comment ils sont venus de Sikensi, c'est de Sikensi, de ce village précisément qu'on appelle Gomon, qui sont venus à s'installer là. Ils ont été attirés par quoi?
En fait, comme je l'ai dit, c'était comme un retour vers des zones que leurs ancêtres avaient parcourues. Et quand ils revenaient, ils ont fait escale à Abrébi. D'ailleurs, Abrébi, c'est également une zone où les Aladjans ont vécu. Voilà, d'ailleurs, Abrébi, ça vient de Abrembi, donc c'est-à-dire le village des Abrems. Ces Abrems-là, qui sont aujourd'hui dans une localité sur la côte Fanti, qu'on appelle Efoutou. C'était Efoutou Abrem, mais aujourd'hui, l'Abrem s'est détaché de l'Efoutou et ils viennent de l'Abrem, exactement d'un village qui s'appelle Sama Abrem. Voilà, et donc sur leur chemin, ils ont fait escale à Abrébi, où il y a des éléments à Maladjans qui se sont joints à eux et ils ont poursuivi, ils ont également parcouru le pays ébrié. Ils se sont même installés à Agbongondoumé, c'est-à-dire la zone que vous appelez Abobodoumé. Mais en fait, c'est Agbongondoumé, c'est-à-dire la berge des guerriers. Donc, ils étaient installés là et là, ils ont eu un problème. Ils ont eu un sérieux problème parce qu'ils étaient des guerriers assez turbulents et ils ont assassiné un jeune ébrié, évidemment. Les ébriers Nokwa, qui n'étaient pas loin de la zone mécontents, les ont chassés du lieu. Et c'est ainsi qu'ils vont quitter la zone donc d'Agbongondoumé. Ils vont parcourir plusieurs zones avant de venir s'installer dans ce qui va être le pays Mbato.
Le pays Mbato qui est donc composé de plusieurs villages, ce que je retiens c'est Domolon, ce que je retiens également c'est Dabré Akouré, qui est le village de cet ancien ministre, ex-ministre Feu Siméon Aké. Et ces trois villages, on les a en tête, on s'arrête là ou bien à d'autres villages?
En fait, ce sont les villages historiques. Les autres villages qui se sont créés le long du Komoué, c'est à la suite d'un conflit de génération. Parce que les jeunes trouvaient que les jeunes filles, on les mariait plus à des gens de génération ancienne, c'est-à-dire aux anciens. Donc, ils n'étaient pas contents de cela. Et c'est ainsi qu'ils ont quitté ces zones anciennes-là pour aller le long du Komoué pour créer les villages que vous savez. Mais en fait, quand ces Goua ou Mbato arrivaient, ils étaient dirigés par deux leaders principaux. Il y avait Poukadou et puis il y avait Amoni Agua. Alors, Poukadou est connu par les traditions des ébriers et Lépin, c'est-à-dire les ébriers de la région d'Alépin, comme Konobadou. Et donc, c'est Konobadou ou Poukadou et puis Amoni Agua. Quand ils sont arrivés dans la région, ils ont trouvé déjà une famille installée. C'est la famille Goun. Et l'ancêtre de Goun s'appelait Gongondon. En fait, Gongondon ou Gongonton, c'est un ancien nom à Kan. Dans mes recherches, j'ai découvert cela. C'est un ancien nom à Kan qui est donné à un enfant qui, au moment où il naît, son père est décédé. Et puis, au moment où il naît aussi, sa mère décède. Donc, c'est quelqu'un qui naît totalement orphelin. On lui donne le nom de Gongondon.
Un pays abron, on dit Mantoya.
Ah, voilà. Donc, vous voyez, il peut y avoir plusieurs noms pour désigner cette réalité qui est quand même assez rare, mais qui peut arriver. Un enfant, au moment où il naît, sa mère décède et son père est décédé avant. Voilà. Donc, c'était ce Gongondon-là. Et c'est lui l'ancêtre du clan Goun. C'est lui donc qui accueille Amoni Agua et c'est lui qui accueille Poukadou. Alors, la famille de Poukadou sera la famille Oga et puis la famille de Amoni Agua sera la famille Mampiru. Voilà, Mampiru. Donc, vous voyez les trois principales familles là, Oga, Mampiru et puis Goun. Et donc, quand ils arrivent, Gongondon leur dit, vraiment, j'ai des voisins ici avec qui je ne m'entends pas. Il veut parler des Aké Lépin. Il les appelait Dan. Lui, il les appelait Dan, mais ce sont les Aké Lépin qui sont aujourd'hui à Montezo, à Memni, etc. Et donc, il a poussé Amoni Agua et Poukadou à leur faire la guerre. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, ils vont expulser de la zone un peu plus loin, mais bien sûr, les Aké ne sont pas allés très loin. Hein. Voilà. Et puis, c'est ainsi qu'ils vont s'installer.
Et le premier village sur le plan traditionnel du peuple Goua, est-ce qu'on peut avoir le nom?
Bien sûr. En fait, Domoun et Dabré, en fait, en réalité, c'était des quartiers d'un même village. Domoun et Labounou, Dabré, Domoulon, c'était des quartiers d'un même village. Mais il y a eu quelques conflits d'autorité. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés dans la région, Amoni Agua avait un chien qui ne le quittait jamais, qui était avec lui. Mais en fait, ce chien était le symbole en réalité de son clan. Je vous ai parlé des sept familles, des sept matriclans chez les Akans. Voilà, c'était le symbole de son clan. Donc, il ne se déplaçait jamais sans son chien. Or, apparemment, l'ancêtre de Gongondon n'aimait pas les chiens. Et il avait de grands pouvoirs mystiques. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a pu projeter sur le chien, mais semble-t-il le chien était empoisonné, le chien est mort. Donc, ce qui fait que la rencontre entre Amoni Agua et puis Gongondon ne s'est pas bien passée. Et donc, quand Gongondon les a reçus et leur a offert des tabourets pour s'asseoir, devant ce fait-là, Amoni Agua était mécontent. Il a refusé de s'asseoir sur le tabouret que lui offrait Gongondon. Il a préféré couper des feuilles fraîches sur lesquelles il s'est assis. Mais c'est Poukadou, de l'ancêtre de Oga, c'est lui qui a accepté de s'asseoir sur le tabouret. Si bien que anciennement, bien que les Mbato ont le système des classes d'âge, des générations, mais il y avait le roi, il y avait un système royal à côté, comme qu'on le trouve chez les Abouri. Il y a le système des classes d'âge qui gère les aspects militaires et puis il y a le roi qui gère les aspects politiques. Et le titre du roi, c'était Abilokon. Donc, ce qui fait que c'est la famille Goun de Gongondon et puis la famille Oga de Poukadou, ces deux que sortit de façon alternée l'Abilokon, c'est-à-dire le roi. C'était comme ça. Et c'est ainsi que, comme apparemment, c'est comme si la famille d'Amoni Agua a été écartée traiter de la gestion de la royauté. Et ça, il n'était pas content. Il n'était pas content de cela. Et ça aussi, ça a créé des frictions, justement, entre les descendants d'Amoni Agua et les descendants de Pukadou.
Vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous avez dit le nom du village quand les Gois sont arrivés, le premier village qu'ils vont occuper?
Mais au départ, quand ils arrivent, au départ, ils n'ont pas de village. Ils s'installent dans la localité où était l'ancêtre des Gouns, c'est-à-dire Gongondon. Et c'est ainsi que par la suite, ils créent eux-mêmes leur village. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais n'oubliez pas que quand ils arrivent, il y a cette atmosphère de guerre avec les Atié Lépin. Voilà, avec les Atié Lépin, jusqu'à ce qu'ils puissent s'installer et créer les villages qu'on sait.
J'ai lu dans un livre que les Mbato, comme on devrait les appeler aussi, les Mbato, c'était des gens très 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 puissants sur le plan mystique et qu'ils ont fait voir de toutes les couleurs aux Atié.
Bon, n'oubliez pas que ils sont venus de Gaumont qui pratiquent justement ce rite-là. Bon, mais en fait, ce rite-là qu'on appelle le Dipri, en réalité, il y a à l'intérieur un rite qu'on appelle le Seke qui donne une forme de puissance mystique. Donc, ils sont héritiers de cela. Ils sont venus aussi avec cela. C'est cela. Mais bon, je pense que même les Atié aussi, vous savez, tous ces peuples-là avaient des esprits dont ils tiraient des forces. Donc, il n'est pas dit qu'en face, les autres n'avaient pas aussi des pouvoirs mystiques. Mais on sait que ces Gouas-là étaient vraiment des vaillants guerriers. Mais on va voir aussi, malgré cela, une famille d'origine Atié Lépin qui va s'intégrer à la sable Goua. Voilà, c'est la famille de l'ancêtre Sado Ogoué qui va donner la famille Ndjipirim. Voilà, le clan Ndjipirim qui va s'intégrer. Maintenant, vous avez aussi d'autres familles, deux autres familles. Parce que quand les Agnis sans vie attaquaient les Abourés de Bonoua, certains Abourés de Bonoua ont franchi le Komo et sont venus se réfugier en pays Ngbato. Voilà. Ils se sont installés même dans un village qui s'appelle Talemon. Et c'est ainsi que eux, ces Abourés, vont donner la famille Goum Kouchi. Et puis maintenant, au 19e siècle, il y a quelqu'un, un ancêtre qui s'appelle Olo Goibo ou Olo Goibo, qui lui va partir, disons, de la région d'Abosso, mais en réalité, il est parti de l'embouchure de la Bia, de Bianou, où étaient installés les Otilés. Et puis lui aussi, il va venir s'installer en pays Ngbato et il va donner la famille Elo ou Elé Goum.
On va arriver aux différentes attaques parce que il s'est passé des choses aussi entre les Abourés et les Gois.
Bon, en fait, anciennement, non. C'est aujourd'hui le fait que la terre est devenue, d'abord, se raréfie et elle devient un objet de richesse. Surtout que vous avez les cultures spéculatives, hein, telles que l'EVA, l'ananas, le palmier à huile. Et donc, ça crée des conflits. C'est cela. Sinon, ce n'est rien d'autre. Sinon, au contraire, c'était des peuples alliés. Parce que quand les Abourés étaient harcelés, notamment par le roi Kassi Atokpla, Atokpla Kassi du Sanvi, ils ont dû se replier du côté des Ngbato. Et d'ailleurs, les Ngbato les ont soutenus militairement. Ensemble, ils ont pu vaincre les guerriers Agnis Sanvi qui étaient allés sur le terrain pour leur faire la guerre. Ils ont même capturé le roi Atokpla Kassi. Ça, peut-être certains sans vie vont nier, mais c'est la vérité historique. Vous savez, souvent je suis confronté à cela. Quand on m'invite pour parler de l'histoire, il y a certaines vérités historiques que les gens veulent refuter. Mais l'histoire s'impose. Elle est liée à la vérité. Est-ce qu'on peut chasser la vérité? Non, la vérité, c'est la vérité. Et ils ont vaincu les Agnis. Et d'ailleurs, les noms tels que Ngrakon, Adungbato, etc., c'est des mots Agnis. C'est des mots Agnis. C'est guerriers Agnis sans vie qui sont allés là-bas. Sinon, les noms en bateau même existent en langue. Gua existe, voilà, pour désigner ces localités-là. Mais c'est le passage des guerriers du roi Atokpla Kassi, disons une aventure militaire qui a mal tourné pour les Agnis sans vie, et c'est ces noms-là qui ont été retenus par l'administration. Voilà.
Et c'est pourquoi on parle des Mbato, des Kwato, des Gua comme des gens très 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 puissants. Ils ont livré un peu de guerre vis-à-vis de leurs voisins, les Pins. Ça n'a pas été vraiment catastrophique. Je crois qu'ils se sont vite entendus. Ils sont partis précisément de Gaumont, les Gois, et ils ont traversé beaucoup de régions. Ils ont traversé le pays à Ogyokuru, le pays à Ladian. Forcément, ils doivent passer par les Ogyokuru d'abord avant d'arriver au pays à Ladian. Et puis, du pays à Ladian, ils ont traversé les Ébriers. Et puis, ils ont continué, ils sont partis se fixer au bord, je dirais, du Komoué. Ils étaient attirés par quoi et qu'est-ce qui les a retenus là?
Comme je l'ai dit, vous voyez, il y a ce que je pourrais appeler la ruminescence de la mémoire. On peut appeler ça la ruminescence de la mémoire. Ils se souviennent que leurs ancêtres ont parcouru cette région qu'ils appelaient Agouvri. Oui, ils se souviennent de cela, la Agouvri. Ce matin-là, je vous écoutais sur ONU CFM, je crois que l'émission que vous avez faite à Songoré, mais il y a un ancien qui a dit, qui a bien situé où était l'Aquamon. Il a dit entre les Fanti et puis les gars d'Accra. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que la tradition orale africaine, les Européens, nos collègues historiens européens l'ont mal compris, certains même de nos collègues africains, parce que la tradition orale en Afrique n'est pas seulement une transmission de mémoire. C'est plus que cela. C'est-à-dire que cette tradition est jouée et répétée régulièrement. Voilà. Donc, quand on cite, par exemple, chaque année le nom des ancêtres, parce qu'on célèbre la fête des ignames ou la fête qui marque la nouvelle année, mais quand on fait ça régulièrement, on ne peut pas oublier. Hein? Quand les gens célèbrent, par exemple, l'Abissa et que ceux qui sont du clan qui a pour symbole le chien arborent des chiens, c'est pour dire que voilà ce que moi, mon ancêtre a fait. Il a apprivoisé le chien. Donc, c'est comme si c'est une mémoire qui est jouée, qui est répétée, qui est actualisée. Donc, c'est pire que les gens n'oublient pas. Quelquefois, même chez certains peuples, comme chez les Bron ou d'autres groupes akans, mais si tu joues le tambour et que tu te trompes et que tu ne rectifies pas, mais tu es bon pour l'exécution, tu es bon pour être exécuté. Donc, si bien que les gens avaient le souci de l'originalité et de la vérité historique sur l'histoire des ancêtres. Voilà, donc ce n'est pas que transmission de mémoire, c'est plus que cela. Si bien que les gens se souviennent, ils savent que les ancêtres ont parcouru ces régions-là, cette région qu'ils appelaient Agouvri. Ils se souviennent que les ancêtres ont parcouru ces régions et comme ils se souviennent, ils sont revenus, tout simplement. Ils sont revenus sur les terres de leurs ancêtres. Mais évidemment, au moment où ils reviennent, il y a des gens qui l'occupent. Et c'est ainsi que, mis à part l'ancêtre de Goun, c'est-à-dire Gongondon, qui était dans la région, ben, les Atiers, les Pins, eux aussi, ils étaient dans la région.
Les premiers qui sont arrivés, il y avait un petit conflit qui a fait que mystiquement, on a éliminé le chien de l'un des ancêtres. Est-ce que le chien représente quelque chose aujourd'hui? C'est un symbole? Qu'est-ce qui est leur symbole, ces peuples qui sont retournés à leur point de départ?
Bon, en fait, le chien, c'est le symbole seulement de la famille Mamperio. Voilà, c'est pour ça que leur ancêtre Amoni Agua arborait le chien. Vous savez très bien, par exemple, chez les Brons, bon, peut-être certains ont laissé tomber ça en disant, mais quand on dit Aduana, Aduana, ça veut dire la famille du chien. C'est-à-dire la famille qui a pour symbole le chien. Adua, c'est le chien en cuit. Na, c'est la famille du chien. Donc, ce principe de cette matrice-là, c'est universel. Et c'est ainsi que Amoni Agua, l'ancêtre des Mamperu, ne quittait jamais son chien. Il était toujours en compagnie de son chien. Et les Mamperu, ils savent cela, ils s'en souviennent. Voilà, ils s'en souviennent. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que un Gua qui est de la famille Mamperu, la famille de l'ancêtre Amoni Agua, s'il va en pays hébrié, qui dit les Mamperu et que ce sont le symbole de sa famille, c'est le chien. Mais les Hébreux vont dire, voilà les Gbadoma, voilà tes frères, va les rejoindre. Et aussi, les ancêtres à symbole le chien. Donc, vos ancêtres lointains sont les mêmes. Va rejoindre les membres de ta famille. Voilà ce qu'ils lui diront.
Au début de l'émission, j'ai dit que c'est un peuple un peu spécial. Est-ce que vous pouvez encore me dire quelque chose qui prouve vraiment que ce peuple un peu spécial, c'est un petit peuple, mais qui a combattu les autres et qui a aidé les Abourés à combattre le puissant royaume du Sanhui? Bon, ils les ont repoussés, ils ne les ont pas combattus jusqu'à Boisseau. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce peuple-là encore?
Oui, ils avaient des pouvoirs mystiques qui tiraient des rivières qu'ils ont trouvées dans la région. Mais aussi, il y avait des reliques, ce qu'on appelle des reliques, c'était des bracelets de l'épouse de Gongondon, qui s'appelait Beya. Elle a laissé des bracelets qui sont devenus des reliques. Et donc, ces bracelets-là font l'objet d'un culte. Ça fait l'objet d'un culte. Et toutes les rivières, les ruisseaux, etc. qui parcourent la région, Gongondon leur a montré comment il fallait vénérer les esprits de ces rivières-là. Et c'est de là qu'ils ont tiré leur force mystique. Voilà, c'est de là qu'ils tiraient leur force mystique. Et donc, les classes d'âge, les générations, vénéraient ces différents esprits de la région desquels ils tiraient leur force mystique. Et bon, eux, ils pensent évidemment, eux, ils pensent que ce sont ces forces mystiques-là qui leur ont permis de rester forts et indépendants, bien que n'étant pas très nombreux. Ils ont pu vaincre sur leur territoire les Agnis en vie qui ont dû repousser chemin. Et même quand ils ont fait prisonnier le roi Atokola Kassi, les anciens ont dû le protéger parce que les jeunes générations voulaient l'exécuter. Les anciens ont dit non, on ne tue pas un roi. Même si c'est un roi étranger, on ne tue pas un roi. Donc c'est très mauvais ceux qui exécutent leur roi, comme on a vu les Français exécuter le roi Louis XVI. Voilà, il dit on ne tue pas un roi. Donc c'est ainsi que, contre forte amende, ils ont restitué Atokola Kassi aux Agnis en vie. Voilà, donc c'est de là qu'ils tiraient les forces. Mais aussi, c'était l'organisation des classes d'âge. Voilà.
Les classes d'âge, on ne va pas trop en parler parce que aujourd'hui, ces classes d'âge ont disparu, vous avez dit.
Non, ces classes d'âge n'ont pas disparu. Elles fonctionnent encore. Ce qui a disparu, c'est l'institution de l'abilokon. Voilà, c'est-à-dire l'institution royale. Et parce qu'il y a eu beaucoup de conflits autour de cette institution royale qui était parallèle justement à l'institution des classes d'âge.
Et c'est de ça que je voulais qu'on parle aussi. Ils se sont organisés, il y avait un chef, il y avait un roi.
Mais justement, l'abilokon, c'était un roi. En principe, vu les mérites d'Amoni Agua, sa famille devrait aussi... En fait, en principe, les trois familles, à tour de rôle, devaient exercer la fonction d'abilokon, de roi. Mais finalement, la famille d'Amoni Agua, la famille Mampiru, a été écartée. Et c'est ça qui a créé quelques conflits. Donc, c'est la famille Oga de Poukadou, et puis la famille Goun de Kongondon, qui a tour de rôle exerçait la fonction de roi d'Abilokon. Voilà un peu la situation. Or, Amoni Agua, c'était lui qui dirigeait le groupe des guerriers. Mais on a vu certaines traditions dire, c'est vrai, c'est lui qui dirigeait les guerriers, mais il était au service de Poukadou, qui était le véritable, disons, chef.
Avec ces différents voyages, avec ces différentes expéditions, aujourd'hui, la langue Gwa, ça ressemble à quoi? Un peu d'Agni, un peu d'Aké, un peu d'Abouré?
Mais vous avez tout dit. Vous avez tout dit, monsieur Jules Kofi Yeboua. Évidemment, la langue est appelée Ngula. Mais cette langue-là, c'est vraiment, comme je peux dire, un brassage. Hein. Certes, on classe ça dans les langues dites potou, dans les langues de parler potou. Parce que n'oubliez pas que toutes ces langues-là qui sont parlées dans les zones lagunaires de la Côte d'Ivoire font partie de ce qu'on appelle l'ensemble linguistique Kwa, à l'intérieur desquels vous avez le baoulé, l'abron, même le yoruba, la langue fond qu'on trouve au Bénin, l'évé, voilà, toutes ces langues-là font partie des langues Kwa. Donc, ces langues Kwa qui sont plus à l'ouest, on les appelle les Kwa occidentaux, avec la langue Kwa occidentale, et puis celles qui sont plus à l'est, comme le yoruba, le fond, l'évé, on appelle ça la langue Kwa orientale. Donc, le Ngula, la langue des Kwa, fait partie justement de cet ensemble linguistique. Et à l'intérieur, vous avez des mots qui peuvent être de même extraction, de même prononciation que ce qui se dit chez les Hébriers ou ce qui se dit chez les Abourés. Ou même quelquefois quelques mots qui sont d'extraction Kwi. Voilà, qui sont d'extraction Kwi. Voilà un peu ce que je peux dire de la langue.
Et les Kwa, pour presque terminer, ce sont des Akans?
Absolument. Absolument. Je vous ai parlé justement des matriclans qu'on retrouve chez eux.
On parlera pas de réconciliation, donc dans la sous-préfecture de Oulapo, on ne parlera pas de réconciliation avec les Gwa, parce que forcés, depuis la nuit des temps, ils sont réconciliés.
Oui, ils se sont réconciliés, les Atiens avec qui ils ont fait la guerre. Oui, ils se sont réconciliés avec eux. J'ai même dit que l'ancêtre Sado Ogwe, qui est d'extraction Atien Lepe, a formé le lignage Ndipirum en pays Gwa. Donc, après, il y a eu des brassages et des mariages entre eux. Voilà, donc ça, c'est les femmes qui permettent la réconciliation. Hein. Vraiment, il faut qu'on se dise la vérité.
Les femmes ont toujours occupé une place de choix dans la société traditionnelle.
Absolument. Hein? C'est pour ça que, bon, on fait la fête des mères, c'est bien, c'est des fêtes qui viennent de l'Occident. Mais les Africains, eux, ce n'est pas une célébration d'un jour. Mais la femme est placée haut dans une institution, dans l'institution qui permet d'accéder au pouvoir. C'est la femme. Et c'est la femme qui est la base constitutive d'un pan important de la famille. Donc, nous, les Africains, là, nous, on honore la femme à la base à partir d'une institution, pas à partir d'une fête d'un jour. Voilà. Pas à partir de la fête d'un jour, non. Si bien que quand on veut choisir dans ces groupes qui sont matrilinéaires, on veut choisir un roi. Mais dans la famille royale, on voit qui? Ce sont les femmes, on voit. Celles qui vont dire, voilà, dans la branche familiale, quand on regarde l'arbre généalogique de la famille, au niveau des femmes, bon voilà, c'est telle branche qui doit exercer le pouvoir, etc. C'est comme ça. Donc ce sont les femmes qui décident, en principe, du choix de celui qui va devenir roi et qui est proposé maintenant au notable qui, bon, en général, l'entérine. C'est ainsi. Donc c'est la femme qui a la base du pouvoir.
Merci, professeur Alou Kwame René. Est-ce que vous pensez que que vous nous avez tout dit à propos des Gois, sinon c'est la fin.
Bon, je pense que pour l'essentiel, hein, l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit. Il y a certains détails que j'ai omis. Même sur leur parcours, il y a certains détails que j'ai omis. Mais je les fais exprès parce que, vous savez, nous les enseignants, nous savons que quand on parle, l'attention dure un moment. Voilà. Quand on dit trop de choses, finalement, les gens n'arrivent pas à retenir. Donc, vaut mieux aller à l'essentiel pour que les gens puissent retenir quelque chose. Évidemment, je ne dis pas que tous les auditeurs sont mes étudiants. Mais, comprenez-moi, je suis un enseignant et j'agis comme tel. Voilà.
Merci infiniment, professeur Alou Kouamé. Merci et à bientôt.
Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, conte, légende, des origines à nos jours. Présentation, Jules Coffier-Bois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde.